chef du groupe Rassemblement au Congrès, membre de la délégation du Rassemblement pour les négociations sur l'avenir institutionnel. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'accepter notre invitation pour revenir sur ces 4 jours de discussion autour du ministre des Outre-mer. Tout de suite, une question d'actualité. Le groupe d'initiative Bakou a proposé sa médiation dans les négociations au ministère des Outre-mer. Est-ce que Manuel Valls a raison de dénoncer une tentative de déstabilisation ? Comment vous réagissez à cette nouvelle initiative du groupe de Bakou ?
Oh bah écoutez, c'est une mascarade. C'est une mascarade. Nous savons tous que l'Azerbaïdjan est totalement opposé à la France et que finalement, il instaure en Nouvelle-Calédonie une forme de déstabilisation complète de la France. Et moi, je mets en garde nos collègues, certains de nos collègues indépendantistes, d'être les pions de cette déstabilisation de la France en Nouvelle-Calédonie et de ne pas se laisser instrumentaliser parce que, très sincèrement, qu'on se dise les choses en face, l'Azerbaïdjan ne veut pas le bien des Calédoniens, ne veut pas notre bien. Il faut arrêter, je pense, d'avoir... Je ne suis même pas sûre que ça soit une part de naïveté, peut-être une part d'opportunité, mais en tous les cas, il faut cesser cela, il faut nous parler entre nous. Il y a 3 partenaires. Il y a la France, l'État français, la France, les indépendantistes et les partisans de la France en Nouvelle-Calédonie, c'est ceux-là qui doivent discuter et personne d'autre pour tenter de proposer en responsabilité aux Calédoniens un avenir dans la paix et respectant la démocratie, bien sûr.
Alors justement, il y a eu 4 jours de discussion, de négociation avec le ministre des Outre-mer. Il parle, lui, d'une étape décisive qui a été franchie. Est-ce que c'est aussi le sentiment que vous avez à l'issue de cette nouvelle séquence ?
Oh, bah c'est sans doute de la part du ministre un peu la méthode Coué, c'est-à-dire une façon de valoriser le processus dont il faut reconnaître qu'il y met une méthode de dialogue, de grande écoute et de patience qui est nécessaire. Et bon, on doit aussi lui reconnaître que c'est la première fois depuis des mois et des années que l'ensemble des parties prenantes est autour de la table. Et ça, c'est assez important. Je veux dire que les discussions sont assez sincères. On va au bout des sujets. Et par ailleurs, il y a un travail très sérieux qui est fait sur des documents. Nous avons nous-mêmes contribué avec les loyalistes, le rassemblement, à proposer un certain nombre de choses. Aujourd'hui, l'État vient aussi poser sur la table un document, des propositions, et le fait avec beaucoup de sérieux, et en tout cas, je suis convaincue qu'il y a chez le ministre une volonté de trouver une solution.
Alors c'est un document, vous y faisiez allusion, un document entre guillemets top secret, rien n'a filtré des négociations, on ne sait pas ce qu'il y a dans ce projet d'accord politique. C'est volontaire qu'il y ait cette discrétion, est-ce qu'on sent bien que les Calédoniens aimeraient avoir plus d'informations ?
Évidemment, c'est légitime de la part des Calédoniens. D'abord, il faut dire 2 choses. Ce sont les Calédoniens qui auront le dernier mot. Quelques accords que pourraient signer les responsables politiques en disant « bon, nous considérons peut-être que là, on peut y aller ». De toute façon, ceux qui décident in fine, ce sont les Calédoniens, par le biais d'une consultation dans laquelle ils disent oui ou non à l'accord. Donc le dernier mot leur revient. Mais ce que je voudrais surtout leur dire, c'est que, en fait, ce document ne fait l'objet aujourd'hui d'aucune validation, d'aucune partie prenante autour de la table. C'est-à-dire qu'en fait, l'État a posé un document sur la table. Mais nous avons des divergences entre nous. Nous sommes en désaccord sur un certain nombre de points de ce document. Et les indépendantistes eux-mêmes sont également en désaccord sur un certain nombre de points du document. Il n'y a donc pas matière à poser un document qui ne fait pas l'objet aujourd'hui ni d'un consensus, ni d'un accord. Quand nous aurons avancé et que peut-être les points de déséquilibre auront trouvé un chemin d'accord, alors le moment sera venu de venir devant les Calédoniens, de leur soumettre, de leur expliquer et surtout de recueillir leur avis pour effectivement décider, non pas seul, parce que ce n'est pas notre volonté. Nous voulons les associer très largement, mais dès lors que nous aurons abouti à un point d'équilibre sur ce document, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui.
Alors sans dévoiler bien sûr le contenu de ce document, on croit comprendre qu'il reprend les différentes thématiques qui ont déjà été abordées, qui avaient été sélectionné comme dans la méthode de Manuel Valls, est-ce qu'il y a quand même des avancées sur certains de ces points ?
Oui.
Ou est-ce que vous êtes encore au statu quo avec chacun vos positions divergentes ?
Alors bon, on doit reconnaître dans le camp non indépendantiste qu'il y a une forme de constance à essayer d'avancer sur la souveraineté de la Nouvelle-Calédonie. Il y a une forme de constance et même une très grande constance de notre côté et une détermination à faire respecter le choix des Calédoniens qui s'est exprimé par 3 fois d'une Calédonie maintenue au sein de la République française. Donc à ce titre, je pense que les sympathisants des différentes formations politiques ne doivent pas considérer que quiconque les trahit autour de la table. Ça, c'est une certitude. Mais je voudrais dire qu'il y a un certain nombre de considérations qui sont prises en compte. Vous savez, nous, notre organisation provinciale que nous souhaitons, un retour aux compétences dans les provinces, est prise en compte dans ce document, des revendications, je suppose, enfin des revendications des indépendantistes sont aussi prises en compte. Donc, on voit bien le ministre essaye un petit peu de faire ce que vous écrivez, finalement, une forme de grand écart pour trouver un chemin possible. Et les mots utilisés, d'ailleurs, dans le premier document, pas celui-ci, mais le précédent qui a été rendu public, mentionnent le mot de compromis, qui est plus raisonnable et plus modeste que le mot d'accord global. Voilà. Il est lucide, le ministre. Il voit bien qu'il y a des positions qui peuvent être irréconciliables sur certains sujets et que sur d'autres, il y a peut-être des moyens d'avancer. Et donc, il essaye véritablement de trouver ce chemin où l'on peut avancer. Allez-y.
Non, c'est ce qui inquiète un peu les Calédoniens sur le lien avec la France. Quel compromis peut être trouvé ? On a bien compris que c'était quand même le nœud du problème et le point sur lequel les divergences sont évidemment les plus fortes. Qu'est-ce qui peut faire avancer la situation ? Qu'est-ce qui peut la débloquer ?
Je pense que le ministre et l'État, de manière générale, essayent de trouver des mécanismes, entre guillemets, de souveraineté interne, où on a plus de responsabilité dans l'exercice de nos compétences. Pour nous, en tous les cas, la souveraineté française, l'identité française, la nationalité française en Nouvelle-Calédonie, c'est quelque chose qui est incontournable. On ne peut pas demander aux Calédoniens de choisir s'ils veulent s'en départir ou rester au sein de la République. Et une fois qu'ils ont fait le choix majoritairement, même si je ne remets pas en cause le fait qu'il y ait une non-participation au dernier référendum, n'empêche qu'il y en a eu deux avant, et puis il y a eu tant de référendums en Nouvelle-Calédonie où la population s'est exprimée, hein, de 1987 à aujourd'hui, où il y avait déjà eu un référendum d'autodétermination, que nous considérons nous, aujourd'hui que l'autodétermination, choisir à nouveau, demander à nouveau aux Calédoniens de choisir ce choix, enfin de refaire ce choix, pardon, eh bien est irresponsable. Parce que ces référendums nous ont menés là où nous sommes, et pour nous, l'autodétermination, c'est de la nitroglycérine. Ça oppose les Calédoniens, ça met l'économie du territoire à terre, ça coupe toute visibilité. Et ça, moi, je l'exprimais très clairement lors des discussions devant le ministre. Nous souhaitons aujourd'hui, en 2025, tenter de trouver une solution qui, nécessairement, doit se retrouver au sein de la République avec peut-être plus de souveraineté interne, peut-être, mais en tout cas, nous ne pouvons pas encore dire comme seule solution à Calédonien, nous allons encore vous re-questionner. Ça n'est pas possible, ça n'est pas raisonnable.
Et ça, on imagine que c'est un point dur également et que les indépendantistes, en revanche, tiennent beaucoup à ce droit à l'autodétermination.
C'est un point très dur, c'est un point très dur, et nous essayons d'exprimer nos points de vue, et c'est pour ça que nous essayons de motiver, en tout cas, à assumer nos responsabilités dès à présent, et finalement, à ne pas rejeter à nouveau le problème, il a été tant de fois rejeté, mais à trouver des solutions. Il y a deux autres points qui nous préoccupent. Le second, c'est de mettre fin à ces discriminations qui existent au sein de la société calédonienne, entre les citoyens, les non-citoyens et des droits ouverts de part et d'autre. On ne peut pas aujourd'hui continuer de diviser la société calédonienne ainsi, ou alors des discriminations selon que vous êtes de statut coutumier ou de droit commun. Je veux dire, on n'arrête pas de nous bassiner à Paris ou ici avec des gens qui se revendiquent de slogans, une Calédonie une et indivisible, formidable. C'est le rêve qu'ils ont, tant mieux pour eux. N'empêche que la réalité des faits, c'est qu'aujourd'hui, la société calédonienne est très divisée et par un certain nombre de discriminations en droit qui ne peuvent plus perdurer. Ça, c'est fondamental. Et le dernier point, notre dernier cheval de bataille que nous avons conjointement défendu avec nos amis loyalistes, eh bien, c'est effectivement retourner à ce qui a fonctionné par le passé, c'est-à-dire véritablement des compétences données dans les provinces pour donner une souplesse institutionnelle à l'échelle de la Calédonie, une liberté de modèle à mettre en œuvre sans que cela ne fâche personne, mais arrêter de se battre sur un seul modèle unique où nous passons notre vie en conflit et où les Calédoniens, finalement, en sont les victimes.
Quelle est l'ambiance de ces discussions ? Elles ont lieu 10-11 mois après le 13 mai. Est-ce que ça pèse sur vos échanges, sur la manière dont vous parlez, dont vous considérez les uns et les autres ?
Évidemment, ça pèse. Évidemment, vous savez, on a ce traumatisme du 13 mai. Je pense que les élus le vivent aussi avec retard, puisque durant ces émeutes, nous avons été très, très investis aux côtés des Calédoniens. Et en action permanente à leur côté pour tenter d'aider, pour agir au niveau de l'État, du haut commissaire, commandant de gendarmerie, directeur de la police, pour solliciter des interventions quand les gens étaient menacés, en souffrance. Et en fait, je pense qu'un an après, finalement, nous avons toute cette souffrance-là qui revient. Nous avons vécu le 13 mai 2024, les Calédoniens, un traumatisme profond. Les fractures sont immenses et aujourd'hui, c'est un champ de ruines. Ces émeutes du 13 mai, nous étions déjà en difficulté auparavant, économiquement, du fait de ces référendums qui nous ont opposés. Aujourd'hui, c'est un champ de ruines. Tout ça est à reconstruire, mais il faudra beaucoup de temps.
Mais le dialogue est quand même possible, donc.
Le dialogue est possible parce que nous savons que nous devons assumer nos responsabilités et surmonter cela. Mais le plus dur ne va sans doute pas être la reconstruction matérielle, même si nous luttons pour obtenir plus facilement les fonds d'État, pour qu'ils soient rapidement mobilisés, pour que la reconstruction intervienne rapidement. Nous votons des textes au Congrès pour faciliter cette reconstruction. Mais le plus dur à reconstruire en Nouvelle-Calédonie, ça sera les âmes et les cœurs. Et ça, vous savez, c'est pas à coup de millions d'euros. Et la confiance va être très longue à restaurer. Donc, il faut mener un chemin. Nous devons assumer nos responsabilités. Nous devons essayer de trouver une solution qui respecte la démocratie. Et qui, finalement, un des participants a parlé de win-win, gagnant-gagnant, dans la solution que nous devons trouver. Je crois que nous aurions aussi été capables de le faire si nous avions été capables de nous parler entre Calédoniens avant les émeutes. Vous savez que le Rassemblement a souhaité cela à de nombreuses reprises. Si nous étions mûrs politiquement, nous aurions été capables de discuter avec les indépendantistes, c'est-à-dire que sommes-nous capables de proposer aux Calédoniens, et donc dire à l'État ensuite, bien voilà, nous voudrions cela.
Vous allez essayer, d'ici l'arrivée du ministre des Outre-mer, de parler entre vous, d'avoir des discussions directement entre Calédoniens ?
Je crois que c'est notre responsabilité. C'est notre responsabilité. L'État a ses propres intérêts en Nouvelle-Calédonie. Nous avons les nôtres, les Néo-Calédoniens. Et je pense véritablement que nous pourrions avancer dans cette période qui nous sépare du retour du ministre sur ce propre document. Et j'espère, il y avait une majorité de groupes politiques présents lors des discussions qui étaient plutôt favorables. Et j'espère que l'ensemble des groupes assumeront cette responsabilité, ça me semble nécessaire.
Manuel Valls revient le 29 avril, il a déclaré, je crois qu'un accord est possible. Et vous ?
Je le crois, vous savez, moi je ne suis pas...
D'ici la fin du mois ?
Je ne suis pas irréaliste, mais je suis optimiste. Dans ce document, il y a beaucoup de choses qui conviennent, et puis il y a les désaccords. Donc il y a un gros travail à faire sur ces désaccords, et un travail approfondi. Je pense aussi que c'est ce que l'État veut faire avant son retour. Nous avons une série de visios qui sont prévues avec l'ensemble des parties prenantes pour aller serrer les sujets les plus problématiques et essayer de tenter de trouver des solutions. Je veux dire aux Calédoniens, avec beaucoup de sincérité, que nous considérons qu'un accord est toujours une perspective qui ouvre qui dégage l'horizon pour eux, qui leur donne de la stabilité, de la sérénité et de la visibilité sur leur avenir. Donc bien sûr, c'est absolument ce que nous privilégions, mais je veux leur dire aussi qu'il ne peut se faire à n'importe quel prix, et certainement pas au reniement de leur expression. Le ministre a affirmé qu'il était lui-même très attaché à la démocratie et à l'expression démocratique, dont acte, et donc nous espérons bien trouver les voies qui nous conduisent à effectivement proposer quelque chose en commun.
Autre échéance, Virginie Ruffenac, que l'élection du président des Républicains dans un tout autre domaine. Le Rassemblement est affilié aux Républicains. Vous avez commencé votre campagne interne.
C'est vrai, nous avons déclaré aujourd'hui deux candidats pour notre famille nationale des Républicains, auxquels le Rassemblement est le parti affilié en Nouvelle-Calédonie. D'ailleurs, petite information, ceux qui souhaitent voter pour l'un des deux candidats, Bruno Retailleau ou Laurent Wauquiez, doivent absolument renouveler leur adhésion ou adhérer à la permanence 13 rue de Sébastopol du Rassemblement.
Ils ont jusqu'au 17 avril.
Excusez-moi. Donc pour la Nouvelle-Calédonie, 10 avril, parce que nous envoyons nos cotisations à Paris. Et donc, du coup, c'est le 17 en métropole, mais ici, c'est le 10 avril. C'est la raison pour... Et en plus, j'indique qu'il y a une cotisation réduite quand on passe par le Rassemblement, ce qui n'est pas négligeable. Donc voilà, jusqu'au 10 avril, notre permanence les accueille pour participer à ce choix décisif du leader de la droite républicaine au niveau national. Et vous savez que des élections présidentielles arrivent dès 2027, que notre nation aura un rôle déterminant pour l'avenir des Calédoniens, et que celui qui sera le président de la République également. Donc ces choix ne sont pas négligeables, ce ne sont pas que des choix de parti aujourd'hui, mais ce sont bien des choix d'avenir pour la France et pour la Nouvelle-Calédonie.
Vous avez une visioconférence avec Bruno Retailleau, il y en aura une dans les jours qui viennent avec Laurent Wauquiez.
Oui, nous avons un comité directeur qui se tiendra au Mont d'Or, au Centre culturel du Mont d'Or, le 15 avril prochain à 18h. Et à cette occasion, nous essayons d'organiser la seconde visioconférence, effectivement, avec Laurent Wauquiez. Nous aurons d'autres visioconférences, nous les rendrons publiques. Et puis, je voudrais vous indiquer par ailleurs que Alcide Ponga et moi-même et le Rassemblement, nous engageons avec nos élus une campagne de terrain à Bouraille ce jour, cet après-midi, puis samedi à Koné et Koumac. Nous serons pas si flores à Koumac samedi soir. Et samedi matin, nous serons au Pitiri à 10h30 également. Et ensuite à Point-d'Imier et à Ponériouin, de façon à aller aussi informer nos amis du Nord et de Bouraille également, de ce qui se dit dans ces discussions importantes.
Voilà, c'est rendez-vous annoncé. Merci Virginie Rufenac d'avoir accepté notre invitation.
Merci à vous.